Bonjour à tous. Ça va ce matin? Ouais? Bien réveillé? Ça c'est sûr, hein, si vous ne l'étiez pas en sortant de chez vous, une fois dehors, ça secoue bien là. Bien. Alors c'est à mon tour. Je suis dans mes 40% de mon temps. Ça fait plaisir de me retrouver avec vous. C'est... Ouais, ça va mieux. C'est le quatrième dimanche de cette nouvelle année. Ça passe vite, hein. Vous allez voir que bientôt on dira, ça y est, c'est fini. Et les deux derniers dimanches, pour ceux qui étaient là, la plupart d'entre vous, vous étiez là, vous avez constaté qu'ils étaient sur le même thème, sur le thème de l'Église. Éric a parlé de l'Église en marche, et Xavier a répondu à la question « Pourquoi l'Église ?» En fait, ça n'a pas été une inspiration comme ça individuelle qui est tombée sur chacun. Ça a été un choix commun au début de cette année de prendre ce thème ensemble. Alors l'Église, dans une Église, c'est toujours un thème d'actualité. On peut en parler à tout moment, certainement. Mais si nous avons choisi d'en parler au début de cette année 2017, c'est parce que nous croyons que notre Église ici va connaître une période de changement, une période de transition importante. Nous travaillons déjà de notre côté depuis plusieurs mois sur l'Église de demain, notre Église, dans un proche avenir. Nous réfléchissons au contour que notre Église aura besoin d'avoir dans l'avenir proche, basé sur la vision que Dieu nous a donnée, celle de la multiplication, c'est-à-dire d'une croissance forte. Ça veut dire que, dans la mesure du possible, il est préférable d'anticiper. Et donc, c'est cette réflexion-là que nous faisons, afin de nous préparer le mieux possible à ce que Dieu met en place pour notre Église dans les années qui viennent. D'où le choix que nous avons fait ensemble, Ulrich, Xavier et moi, de parler de ce thème, en sachant que chacun allait prendre certainement un angle différent, complémentaire aux autres. Et que ben dans tout cela, j'espère que le Seigneur y mettra une belle harmonie pour que ça soit le plus complet possible et le plus concret possible pour chacun d'entre nous. Donc, c'est ma contribution ce matin à ce thème de l'Église et dans le but, bien sûr, comme ça a été le cas pour Xavier et Ulrich, de rappeler l'importance de l'Église et le privilège aussi d'appartenir à une Église. Il suffit pour cela de rencontrer, comme nous l'avons fait, des chrétiens qui n'ont pas d'Église et qui ne peuvent pas avoir d'Église parce qu'ils sont persécutés. Alors, l'un des buts, bien sûr, c'est d'essayer de développer au sein même de cette Église, un peu plus le sentiment d'appartenance. De vraiment se sentir le plus possible comme faisant partie de cette Église. C'est le cas de la plupart d'entre vous, certainement. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc c'est l'un des objectifs que l'on voudrait atteindre au travers de ces enseignements bibliques. C'est de développer ce sentiment d'appartenance afin que chacun se sente bien dans cette Église, ceux qui ont fait le choix de faire partie de cette Église. Pour comprendre ce qu'est l'Église, Nous trouvons dans la Bible un certain nombre de métaphores ou d'images assez variées, question du corps, question du couple, l'épouse. Paul en a parlé. L'Église qui est l'épouse de Christ, Christ est l'époux. Et puis il est question aussi d'un bâtiment, d'un édifice, du temple, en faisant bien sûr référence au temple de Jérusalem, là où Dieu se trouvait, la présence de Dieu se trouvait. Ça a été le cas pendant des siècles. Dieu a habité dans ce temple. Et puis, dans les évangiles, le ministère de Jésus a tout bouleversé pour faire des croyants eux-mêmes le temple de Dieu, en fait. C'est quand même beaucoup mieux qu'un bâtiment. Ça veut dire que nous sommes ces pierres vivantes. Alors je voudrais, surtout ce matin, en parlant d'Église, parler de l'Église comme étant le lieu de l'habitation de Dieu, de la maison de Dieu. C'est le titre que j'ai donné, en reprenant le même visuel, pour essayer de trouver une harmonie, justement. J'ai cherché, puis je me suis dit non, tout compte fait, je vais prendre le même visuel que Xavier, ça va donner un lien avec un autre titre, mais on fera la même chose certainement pour Ulrich, avec pour titre la maison de Dieu. Il y a beaucoup de chants ce matin que nous avons chantés ensemble et qui faisaient référence justement à la présence de Dieu. Nous cherchons ta face, éblouis par devant ta face. Venons à toi. Je pense que quand nous sommes ici, particulièrement lorsque nous chantons ces cantiques et nous sommes dans l'adoration, nous prenons conscience que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous cherchons la présence de Dieu. Et ça, c'est le privilège de l'Église. C'est d'être le lieu de la présence de Dieu. Le lieu où Dieu se trouve, où Dieu habite. Et j'aime bien l'image de la maison. Nous avons tous une habitation, que ce soit une maison ou un appartement. C'est notre maison. D'une certaine manière, lorsque nous décorons notre maison, lorsque nous mettons les meubles dans cette maison, nous choisissons ce qui nous plaît, ce qui est confortable pour nous, les couleurs, les formes, etc. De sorte que quand on rentre chez soi, on se sente bien. Hein, c'est ça chez vous. Peut-être les autres, quand ils rentrent chez vous, ils ne se sentent peut-être pas aussi bien. Ou vous allez chez les autres, c'est pareil, parce que ce n'est pas votre style à vous. Ce n'est pas les couleurs que vous aimez. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que les habitants de cette maison se sentent bien dans cette maison. Et nous mettons en place notre maison, notre logement, pour qu'on puisse être bien quand on rentre chez soi. Bien, l'Église, c'est ça, pour Dieu, en fait. C'est un lieu privilégié où Dieu, quand son peuple est réuni, eh bien, Dieu peut venir et il se sent bien. C'est exactement ce qu'il a cherché. C'est les couleurs, c'est les formes, c'est le style qu'il veut, en fait. Et ça, c'est extraordinaire, simplement de penser cela, de se dire, mais c'est ce que nous sommes là, et chaque fois et partout, des chrétiens sont réunis en petit nombre, à quelques-uns, peut-être deux ou trois, ou un très grand nombre, des milliers de personnes. Peu importe, quand ils sont réunis dans la présence de Dieu, eh bien, Dieu est là et Dieu se sent bien. Ça devient sa maison, le lieu où il habite. Donc on va plus mettre l'accent, et c'est l'angle que je vais prendre ce matin pour parler de l'Église comme étant la maison de Dieu. Et nous allons nous arrêter sur trois points à partir d'un texte. Le texte est le suivant, celui de Pierre, dans la première épître de Pierre, dans lequel Pierre dit aux chrétiens, approchez-vous de lui, pierre vivante, lui c'est Jésus bien sûr, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confondu. » On va s'arrêter ce matin sur trois points. D'abord, l'histoire de cette maison de Dieu dans la Bible. Cette maison de Dieu, elle a une histoire, en fait. Et la Bible nous la raconte. Ensuite, nous verrons que l'Église est le véritable Bethel. Vous voyez pourquoi ? Parce que Bethel, en hébreu, veut dire maison de Dieu. Et comment devenons-nous une pierre vivante ? D'abord, on a brossé rapidement l'histoire de cette maison de Dieu dans la Bible. Vous savez que la Bible commence par le récit de la création. Et Dieu a créé l'homme à son image dans le but d'être dans la présence immédiate de cet homme qui a été créé ou de cet être humain, l'homme et la femme, donc créés à son image. Sans aucune barrière, sans aucune limite, en fait. C'est là qu'il se trouvait dans le jardin d'Éden, et Éden veut dire en hébreu délice, plaisir. C'est un lieu où tout est délicieux, et tout est plaisir, en fait. L'environnement était exceptionnel, bien sûr, le climat, il ne faisait pas trop chaud, pas trop froid. Et bien sûr, le plaisir extrême ou le délice suprême pour cet être humain créé à l'image de Dieu, c'était ce face-à-face avec Dieu, en fait, au quotidien, dans cette relation parfaite avec Dieu. Ça, c'est la première partie. Tout ce lieu était la maison de Dieu. Dieu se sentait bien là, avec cette création, avec ses créatures à son image. Et puis, très vite, la Bible, comme vous le savez, nous raconte comment l'homme a voulu prendre son indépendance, devenir son propre maître. Et là, tout s'est arrêté, avec des conséquences immédiates. Parmi ses premières conséquences, ça a été l'expulsion de ce jardin, la fermeture de ce jardin, la disparition. Et il fallait que l'homme soit expulsé à ce moment-là. Il fallait qu'il y ait cette séparation, parce que c'est en fait pour protéger Adam et Ève. Si Dieu était revenu auprès de l'homme dans ces conditions-là, l'homme aurait disparu. L'homme aurait été détruit. Donc pour le protéger, Dieu l'a expulsé de sa présence. Mais le fait de s'être retiré, bien sûr, de cette relation avec l'homme, il y a eu les conséquences que l'on connaît dans le monde d'aujourd'hui, que nous connaissons bien, avec la violence, la haine, la souffrance, la maladie, la mort, enfin le monde qu'on connaît bien, dans lequel nous sommes. Pourtant, Dieu n'a pas voulu laisser ses créatures dans cet état. Il a mis en place donc le plan de rédemption. Et assez vite, Dieu a fait des retours, on peut dire, vers l'homme. Alors à certaines conditions, bien sûr, et pas de manière permanente. On peut dire qu'il a fait des apparitions. Littéralement, ça a été le cas, puisque il y a ce que les théologiens appellent les théophanies, c'est-à-dire des manifestations de Dieu, lorsque Dieu s'est présenté à Abraham sous la forme d'un homme. Et il y a eu ces manifestations de Dieu comme ça. Ces moments privilégiés, il y en a un que vous connaissez certainement bien, c'est C'est celui que ce moment que Jacob a connu quand il a fui la colère de son frère Ésaü et qu'il s'est retrouvé dans ce lieu et qui s'appelait Luz. Et là, dans cette nuit-là, il a eu une vision extraordinaire, la fameuse échelle de Jacob. Et là, il a vu des anges qui descendaient et montaient. Et le lendemain, quand il s'est réveillé, il s'est dit, mais Dieu était là et Dieu était présent et je ne le savais pas. C'est pour cela qu'il a appelé ce lieu Bethel, la maison de Dieu. Mais honnêtement, c'est un titre qui est un peu surfait. Parce que ce n'était pas vraiment la maison de Dieu. Enfin, Dieu y est passé une nuit, vous voyez, c'était plutôt l'autel. Il y a l'autel Dieu. C'était l'autel de Dieu. C'était pour une nuit, en fait. Ce n'était pas la demeure de Dieu, ce n'était pas l'habitation permanente de Dieu. Mais ça a été tellement fort pour Jacob qu'il a appelé ce lieu Beth-El. Beth, maison, El, c'est Dieu. La maison de Dieu. C'était extraordinaire pour lui. Même si ça n'a duré qu'un moment. Il y avait un bref retour à ce que Adam et Ève avaient connu au départ. Mais c'était une fulgurance, on peut dire. Et puis, progressivement, Dieu s'est manifesté de plus en plus. Et puis, il y a eu cette étape importante dans le désert, lorsque Dieu a libéré les Israélites de l'esclavage en Égypte. Et puis là, qu'il a donné à Moïse les instructions pour la fabrication, la construction du tabernacle qui devait être placé au centre du camp d'Israël. Et puis, là, Dieu était présent. Au moment où il a fait cette alliance avec ce peuple dans le désert, la Shekinah, littéralement la présence divine en hébreu, la présence divine, la Shekinah. Elle était là, au milieu de ce peuple. Donc, là, on progresse. Hein. C'est une belle avancée, ça. C'est Dieu qui commence à revenir. Alors, sous certaines conditions, bien sûr. Ah, c'est pas bien sûr comme c'était au départ, mais il y a quelque chose qui progresse. Bien sûr, la présence de Dieu est là, mais la présence de Dieu, ils savent qu'elle est là, mais personne ne peut la voir, personne ne peut entrer. Il y a une exception, c'est le grand prêtre, et encore une seule fois par an, et il a intérêt de suivre les instructions, sinon c'est un homme mort. Et ça va durer comme ça pendant des siècles. Après le tabernacle, il y aura la même chose avec le temple de Jérusalem. Et puis, dans cette période, Dieu va annoncer que les choses n'en resteront pas là. Elles iront vers une autre étape. Une étape majeure, bien sûr. Celle que nous connaissons bien, puisque nous sommes dans cette période. Et elle a été annoncée bien des fois, et voilà, bien des textes que j'aurais pu prendre, mais j'ai choisi ce texte du prophète Zacharie, qui est très intéressant à cet égard. Le prophète Zacharie, il dit ceci à la fin, tout à la fin de son livre. « En ce jour-là, un jour arrive, dit-il, où l'on mettra sur les clochettes des chevaux sainteté à l'Éternel. Et les marmites dans la maison de l'Éternel, vous voyez, la maison de Dieu, seront comme les calices devant l'autel. » Toute marmite à Jérusalem et dans Juda sera sainte pour l'Éternel des armées. Putain, bizarre ça. Hein? Vous savez où se trouvait ce titre-là, sainteté à l'Éternel? Non? Il y a qui ont une idée? Se trouvait à un seul endroit, C'était sur la tête du grand prêtre. Il avait un chapeau qu'on appelle une tiare. Et sur cette tiare, il y avait écrit « Sainteté à l'Éternel ». Et là, tout d'un coup, c'est les chevaux qui vont y avoir droit. Ça change, hein? Avant, il y avait un seul, une exception, un seul qui avait droit ce titre-là, parce qu'il était considéré comme saint par Dieu. Et là, Dieu dit maintenant, à la sainteté, ça touchera même les écuries et les étables. Et puis, les marmites dans la maison de l'Éternel seront comme les calices devant l'Éternel. Tout ce qui touchait au temple, avant au tabernacle, tous les objets étaient considérés comme saints. Mais dans la sainteté, il y avait des degrés. Il y en avait qui étaient plus saints que d'autres. Il y avait des objets parce qu'ils étaient utilisés pour l'autel, on appelle ici les calices, ils étaient plus saints que certaines marmites qui étaient utilisées pour cuire, je ne sais pas quoi, la viande qui servait pour les sacrifices, etc. Et là, Dieu dit, cette hiérarchie dans la sainteté, elle n'existera plus. Même les objets les moins saints, dans le temple, les moins sacrés, eh bien, seront aussi sacrés que les autres, ou ceux les plus sacrés. Et puis, il étend largement en disant, mais même toutes les marmites, toutes les casseroles dans vos maisons, toutes les marmites qui sont à Jérusalem ou dans Juda, ben seront saintes, considérées comme saintes. Voilà, c'est un changement. Hein. Jusqu'alors, Dieu avait dit, il va y avoir une différence. Il y a ce qui est sacré et ce qui est profane. C'était pédagogique, bien sûr, hein, pour réapprendre à l'homme ce qu'est la sainteté. Donc, Dieu avait marqué les choses de cette manière-là. Il y avait un lieu qui était sacré, il y avait des personnes qui étaient sacrées, il y avait des vêtements qui étaient sacrés, il y avait des marmites qui étaient sacrées. Puis tout le reste, c'était profane. Mais Zacharie annonce un jour où tout sera sacré. Où l'esprit de la sainteté s'étendra partout, en fait. Ça ne sera pas réservé à quelques-uns ou à un lieu particulier. Ça touchera tout le monde. En réalité. Vous voyez ? Ça, c'est ce que Dieu voulait. Et ça, Dieu annonçait déjà en disant, ce que j'ai perdu dans le jardin d'Éden, j'ai envie de le retrouver. Alors, ça va se faire par étapes, bien sûr. Alors, il y avait eu l'étape du tabernacle, du temple, et c'était une étape importante pour Israël, bien sûr. C'est ce qui faisait que Israël était un peuple tellement différent des autres, parce que Dieu habitait au cœur même de ce peuple. Et quand Dieu avait menacé Moïse de quitter ce peuple, Moïse avait dit non, surtout pas. Surtout pas, si tu quittes ce peuple, si tu t'en vas, on est comme les autres peuples. Et Moïse avait insisté pour que Dieu reste, parce que la présence de Dieu, c'est ce qui faisait la caractéristique unique de ce peuple, par rapport aux autres peuples. Et bien sûr, lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous voyons cette prophétie de Zacharie avec bien d'autres du même genre dans l'Ancien Testament s'accomplir. La première, c'est quand même la nuit de la crucifixion de Jésus, ou le jour de la crucifixion de Jésus, je veux dire. C'était en plein jour, mais c'est devenu en pleine nuit. Lorsque il nous est dit dans Matthieu, non, si tu peux passer à Matthieu 27. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, etc. Le voile du temple s'est déchiré à ce moment-là. Le message était clair, bien sûr. Dieu voulait dire, ça y est, cette séparation qui avait existé, qui était indispensable au travers du sacrifice de Jésus, maintenant, elle peut disparaître. Maintenant, ça y est, on peut être à nouveau ensemble. dans la présence de Dieu, en fait. C'est pour cela que, dans le texte de Pierre que nous avons lu tout à l'heure, il est question, ici, des pierres vivantes que nous sommes, qui forment la maison spirituelle, d'être un saint sacerdoce. C'est-à-dire que nous sommes tous des prêtres. Tous. Tous saints. Nous pouvons tous. Les prêtres, c'était ceux qui étaient appelés à s'approcher de Dieu. Ils représentaient le peuple. Et ils étaient tournés vers Dieu. Les prophètes, ils avaient la position inverse. Ils étaient envoyés par Dieu vers le peuple pour parler au peuple. Et là, nous sommes tous des prêtres. Vous vous souvenez quand Moïse avait voulu voir la gloire de Dieu et Dieu lui a dit « c'est pas possible, tu peux pas la voir entièrement, tu vas la voir partiellement, parce que sinon tu es un homme mort et j'ai envie de te protéger. » Donc il va lui montrer, mais par derrière. Et puis quand nous lisons Jean 1, 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Bon, je suis sûr que Moïse aurait bien aimé vivre à l'époque de Jean, quand Jean a écrit cela et quand Jean a témoigné de ce qu'il a vu. Parce que c'est ce que Moïse désirait tellement. Et lui, il n'a pas pu vivre cela. Pas de la même manière, en tout cas, que les premiers disciples, que les chrétiens que nous sommes. Parce que nous sommes dans cette période maintenant où la présence de Dieu, elle peut être là, au milieu de son peuple. Pour cela que l'Église est le véritable Bethel. C'est vraiment la maison de Dieu. C'est le vrai Bethel. La présence de Dieu n'est jamais aussi forte et aussi complète ici-bas que lorsque il y a plusieurs pierres vivantes de cette maison qui sont réunies ensemble. Alors bien évidemment, nous savons que le Saint-Esprit habite en nous et que même Paul dira « nous sommes le temple du Saint-Esprit » individuellement, oui. Mais je remarque dans le Nouveau Testament qu'il est fait une seule fois mention de cela, chaque chrétien étant le temple du Saint-Esprit, que tout le reste, c'est pour parler du collectif, c'est pour parler des pierres vivantes, des chrétiens ensemble qui forment le temple du Saint-Esprit. À deux reprises, Paul, dans Corinthiens, dira, n'êtes-vous pas le temple du Saint-Esprit? Dans un cas, il parle des chrétiens individuellement, et dans l'autre cas, il parle de l'Église de Corinthe. Mais il y a d'autres textes, comme celui de Matthieu, par exemple, Matthieu 18, on voit bien que Jésus parle de l'Église lorsqu'il dit « En vérité, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » On connaît bien ces versets. On les cite souvent. Et là, Jésus parle de l'Église. Alors, ça ne veut pas dire que si je prie tout seul, Dieu ne m'entend pas et ne m'exauce pas. Mais il y a quelque chose de plus quand l'Église est réunie. La manifestation de la présence de Dieu est certainement plus importante encore. Et aussi, Si l'Église est le Bethel de Dieu, c'est parce que ensemble, nous pouvons mieux connaître Dieu ou Christ que si je suis tout seul. Je pourrais peut-être avoir ce réflexe et me dire, oh, si j'étais avec Jésus tout seul, je l'aurais que pour moi. Ça quand même, ça serait le luxe. Ça serait ça l'idéal. C'est de l'avoir que pour moi. C'est gravement se tromper en fait. On pense qu'on le connaîtrait mieux si on l'avait pour nous tout seul. Et en fait, on oublie une chose, c'est qu'il nous faut les autres pour mieux connaître une personne. Ça, c'est quelque chose que C.S. Lewis a fait l'expérience dans sa propre vie et avec ses propres amis. Donc, vous savez, pour la plupart d'entre vous, il était professeur de littérature à l'université d'Oxford au XXe siècle. Et ils avaient mis en place un petit club, un groupe là de professeurs qui étaient ensemble. C'était à peu près une dizaine, ils se voyaient très régulièrement, il y en a d'autres qui sont ajoutés, mais enfin il y avait un groupe de 10 et ils parlaient beaucoup littérature, ils lisaient leurs textes, les textes qu'ils écrivaient ensemble, partageaient beaucoup de choses ensemble. Mais dans ce groupe-là, il y avait trois qui étaient vraiment très très proches. Il y avait Lewis, il y avait Charles Williams, et puis il y avait Ronald Tolkien. Tolkien, hein, pour ceux qui ont lu Le Seigneur des Anneaux, vous savez, vous connaissez. Et Lewis raconte dans son livre Les Quatre Amours, il raconte dans le chapitre sur l'amitié, quelque chose d'assez personnel bien sûr, et je pense d'assez universel aussi. C'est ce qu'il a vécu lorsqu'il a perdu l'un de ses amis. Ils étaient donc les trois ensemble, vous voyez, Charles Williams, C.S. Lewis en bas, hein, Clive Staples, et puis John Ronald, donc Tolkien. Et ils étaient tous les trois, ils profitaient tous les trois les uns des autres, dans leur amitié, comme ça se passe bien sûr dans un groupe d'amis. Et puis, un jour, assez brutalement, Charles Williams est décédé. Et Lewis s'est dit, ah tiens, il dit, maintenant que Charles est décédé, je vais avoir Ronald pour moi tout seul. Et je vais plus en profiter. Je vais mieux le connaître. Alors il a cru que ça se passait comme ça. Mais en fait, il a réalisé que ce n'était pas du tout ça. Il a réalisé qu'il avait, avec le départ de son ami Charles, il n'avait pas plus de Ronald, mais il avait moins de Ronald. En fait. Et il dira dans son livre, donc, Les Quatre Amours, il dira les paroles suivantes. Dans chacun de mes amis, il existe une part que seul un autre ami peut amener à exprimer pleinement. Seul, je n'ai pas l'envergure suffisante pour susciter l'activité d'un être humain dans sa totalité. J'ai besoin d'autres lumières pour faire briller toutes ses facettes. Maintenant que Charles est mort, je ne verrai plus Ronald réagir à ces plaisanteries dont il avait le secret. Eh oui. Charles avait quelque chose de particulier dans sa personnalité qui faisait réagir Ronald d'une certaine manière que lui, Lewis, n'arrivait pas. Et au travers de Charles, il arrivait à découvrir une facette de Ronald que lui ne peut pas révéler tout seul, en fait. Loin d'avoir plus Ronald, dit-il, de l'avoir à moi tout seul, maintenant que Charles est parti, j'en ai en réalité moins. Nous possédons d'autant mieux notre ami que croit le nombre de ceux avec qui nous le partageons. En fait, il dit, si on veut avoir plus d'un ami, eh bien, partageons-le. Et les autres vont nous aider à mieux le connaître. Parce qu'ils ont des caractéristiques, des personnalités que moi je n'ai pas. Et ils vont faire ressortir des aspects de sa personnalité que moi je ne peux pas faire ressortir. Et ça, je pense que les uns et les autres, on l'a vécu les uns et les autres dans nos relations humaines et dans nos relations amicales notamment. Et il termine ce paragraphe en disant, c'est pourquoi dans la vision d'Ésaïe, les séraphins s'apostrophent en s'exclamant « Saint, Saint, Saint !» Plus nous partageons le pain céleste, plus nous en aurons. Alors si c'est vrai sur le plan humain, dans nos relations amicales par exemple, le fait d'être plusieurs nous amène à mieux connaître une personne. Imaginez avec Christ. Est-ce que je pense, moi tout seul, Daniel Leroux, je peux faire ressortir tout ce qu'il y a en Christ que par moi? Non. C'est une ambition folle. Une arrogance même. J'ai besoin des autres pour ça. Et c'est souvent ce qui se passe. Quand les uns et les autres, nous partageons des témoignages, des expériences que nous avons faites dans notre vie spirituelle, du secours de Dieu, de la grâce, de la bonté de Dieu, de la direction de Dieu, enfin, les autres, on les voit parfois vivre des choses que nous n'avons pas vécues et qui font ressortir des aspects de la nature de Dieu que ben, nous, on n'a pas autant vu dans notre vie, en fait. Et grâce à cela, je peux mieux découvrir qui est Christ, en fait. C'est la raison pour laquelle ces pierres vivantes, et c'est parce que ce sont des pierres, Christ fait de nous des pierres. Enfin, s'il fait de nous des pierres, c'est pourquoi? C'est pour les mettre dans un bâtiment. C'est pour les mettre avec d'autres. Il y a une logique là, non? Imaginez. Qu'il fasse des pierres et puis qu'il les laisse là, comme ça, sur un chantier. Ça sert à rien, ça serait de la folie. Si Pierre nous dit, le bien-nommé, que Dieu fait de nous des pierres vivantes, c'est dans le but de construire quelque chose avec. Si on fabrique, on taille des pierres, c'est pour les mettre avec d'autres et construire un bâtiment. La raison pour laquelle, si Dieu a fait de nous ces pierres vivantes, c'est pas pour rester seul dans un champ, quelque part. C'est pour être avec d'autres. Et avec d'autres, construire, bâtir, édifier la maison de Dieu, en fait. Dans laquelle Dieu va venir et manifester sa présence. Enfin, il y a une logique implacable. Et c'est nettement mieux pour notre protection. Prenez une pierre à six côtés. Si vous l'avez laissé seul par terre, il y en a cinq côtés qui vont être exposés aux vents, aux intempéries, et qui vont l'user. Si vous mettez cette pierre dans un bâtiment, il n'y a plus que combien de côtés qui est exposé aux intempéries? Un seul. Un seul. Notre protection, c'est d'être avec d'autres, justement. À côté de d'autres. Non seulement parce que ça va nous amener à mieux connaître celui qui habite au milieu de nous, au travers des autres, au travers de leurs expériences, comme on vient de le voir, mais en même temps, c'est ce qui nous protège. C'est ce qui nous garde. C'est pour cela que Pierre parle de Jésus qui fait de nous des pierres vivantes. Afin d'édifier cette maison de Dieu. Mais comment est-ce qu'on devient une pierre vivante? Le texte semble clair. Approchez-vous de lui. Lui, c'est la pierre vivante par excellence, appelée plus loin la pierre angulaire. Approchez-vous de lui. Ça, c'est une phrase très évangélique que nous connaissons bien. C'est celle que Jésus répétera sans cesse lorsqu'il dira « Venez à moi, vous tous, approchez-vous de moi. Viens et suis-moi. » Enfin, c'est la parole évangélique par excellence que nous connaissons bien. C'est celle que Pierre redonne ici, mais il donne cette parole-là à des hommes et à des femmes qui s'étaient déjà approchés de Christ. Parce que c'est à des chrétiens qu'il s'adresse. Mais on ne s'approche pas une fois. On s'approche constamment de lui. Et c'est ce qu'il veut dire là, continuez d'approcher, de vous approcher de lui, ne vous arrêtez jamais de vous approcher de lui. Parce que c'est dans cette proximité avec lui, dans cette relation avec lui, que lui vous transforme. Et bien évidemment, c'est une parole importante, puisque approchez-vous de lui, ça veut dire que nous allons être acceptés par lui. S'il lui dit « Venez à moi », c'est parce qu'il veut nous dire « Si vous venez, je vous accepte ». Ça, c'est le message de l'Évangile que nous connaissons bien et qui répond à un besoin fondamental de chaque être humain qui est le besoin d'appartenance. On a besoin d'être accepté. On a besoin d'être aimé. Et dans l'Évangile, c'est Dieu qui nous dit « Mais moi, je vous aime et moi, je vous accepte tel que vous êtes. Venez à moi, en fait. » C'est ce qu'on a entendu quand on a entendu l'Évangile. Et c'est ce qu'on a fait lorsque nous sommes approchés de lui par la foi, dans l'adhésion que nous avons eue. Nous avons cru, nous sommes approchés. Il nous a acceptés. Et nous a transformés pour faire de nous ce que Pierre appelle ici des pierres vivantes. Et dans la mesure où nous approchons de lui, nous continuons de nous approcher de lui, eh bien c'est ce besoin d'appartenance qui est satisfait en permanence. Ça veut dire que dans cette expérience, Christ va devenir la principale pièce de notre identité, de ce que nous sommes. C'est pour ça qu'il est appelé la pierre angulaire. Il a appelé la pierre angulaire parce que dans ce bâtiment qu'est l'Église, il est la principale pièce, bien sûr. Il est la pierre principale. Mais il est appelé aussi, si nous sommes le temple de Dieu, comme Pierre le dira, il est appelé aussi à être la pierre angulaire de notre vie, en fait. C'est-à-dire de notre identité. Cette pierre angulaire, cette fondation, elle va devenir fondamentale, moi qu'on puisse dire. Et elle va changer totalement notre identité. Nous avons tous une identité qui s'est construite à travers le temps, à travers les années, à travers les rencontres que nous avons faites, notre histoire personnelle, bien sûr. Mais lorsque nous regardons de près ce que nous sommes, c'est-à-dire notre identité, on s'aperçoit qu'elle n'est pas d'un seul bloc, qu'il y a plusieurs couches, qu'il y a des strates, des superpositions, en fait. Il y a des choses qui sont plus importantes dans notre vie que d'autres. Et puis on réalise qu'il y a quelque chose de plus fondamental encore. Il y a ce qu'on peut appeler le socle de cette identité. Là, c'est ce que nous sommes vraiment en réalité. Alors ça change, ça peut changer dans une vie, ça change selon les personnalités, les personnes ou les histoires personnelles, etc. Mais ce qui, de manière générale, construit notre identité, c'est le lieu où on est né, où on a grandi, bien sûr, le pays, la culture, donc la nationalité, c'est les études que nous avons faites, c'est le métier que nous avons, le travail, la famille, bien sûr. Tout cela, ça participe à notre identité. Et puis, dans toutes ces pièces, il y a quelque chose qui va être plus fondamental encore. Pour certains, ça va être la race, ça va être la tribu, ça va être la famille. Pour eux, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça va être le clan, ça va être la nation. Pour d'autres, ça sera le travail, ça sera leur métier. L'épanouissement qu'ils ont pu développer au personnel, au travers de ce métier, c'est ce qui les a construits, et ce qui a donné un sens à leur vie. Et c'est ce qui va constituer le socle identitaire, en fait. Et quand nous arrivons vers Christ, nous entendons l'Évangile, on a tous notre cheminement identitaire différent les uns et les autres. Là, ce que Pierre nous dit, parce qu'il parle beaucoup de ce que nous sommes, de ce que nous sommes devenus au travers de Christ, donc de notre nouvelle identité en Christ, là, il présente Christ comme étant la pierre angulaire, le fondement, le socle, celui qui va être la partie la plus importante de ce que je suis, en fait. Ce qui va déterminer tout le reste, en réalité. Moi, personnellement, je suis un Français, blanc, vous avez remarqué ? Bien blanc, très blanc même, blanc de blanc. Il y en a qui sont noirs, très noirs. Eh bien, il y en a qui sont blancs, blancs. Moi, je suis blanc, blanc. Et je suis pasteur aussi, depuis un petit moment. Je suis mari, une seule femme, père de 2 enfants, grand-père de 3 petits-enfants. Tout ça, c'est ce qui m'a construit, en fait. Fils, bien sûr, dans une famille avec des frères et sœurs, ou un frère et 2 sœurs. Lorsque je suis devenu chrétien, lorsque je me suis approché de Christ, comme Pierre le dit ici, je n'ai pas arrêté d'être blanc, hein, vous avez remarqué. Je suis toujours blanc. Je n'ai pas changé de couleur. Je n'ai pas changé de nationalité non plus. Je suis toujours père, je suis toujours mari d'une femme. Mais depuis que je suis chrétien, je suis peut-être pas aussi blanc que je l'étais. On va dire, ah bon ? Dans le sens où c'est pas la couleur de la peau qui compte le plus pour moi. C'est pas vraiment que ça a toujours compté, ça a compté vraiment, mais imaginons que ça a compté. C'est parce que si je suis pasteur, c'est important, bien évidemment. Mais ce n'est pas ce qui compte le plus. Et vous savez, il y a une heure de vérité dans ce genre de choses, c'est quand vous prenez la retraite. Vous voyez si pasteur, c'est votre socle identitaire ou si ça ne l'est pas, vous voyez. Vous mesurez vite les choses, là. Que quand vous devez vous séparer de quelque chose, c'est là que vous mesurez l'attachement que vous avez à ce que vous... avec ce dont vous vous séparez. Et si c'est Christ qui est mon socle, si c'est Christ qui est cette pierre angulaire dans ma vie, alors, bien évidemment, tout le reste peut avoir sa place et son importance, mais ce n'est pas ce qui va dominer et contrôler ma vie. C'est ça la différence. Pour les gens pour qui c'est la race qui compte plus que tout le reste, ben, vous savez ce que ça fait ? Ça fait des racistes. Forcément. Et à ce titre-là, un chrétien raciste, c'est pas possible. C'est-à-dire, soit il est chrétien, il n'est pas raciste, soit il est raciste, il n'est pas chrétien. Parce que si on est chrétien, notre socle, c'est Christ. La pierre angulaire, c'est Christ. La race, ou l'ethnie, ou la nation, elle a son importance, bien sûr. Ça existe. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Mais ça joue même sur les blessures que nous avons pu connaître dans notre vie. Parce que ça aussi, ça construit une identité. Les enfants qui ont été rejetés par leurs parents, abandonnés, croyez-moi, ça marque une vie. Et ça construit une identité. Et ça devient souvent le socle de leur vie, en fait. C'est-à-dire que toute leur vie va tourner autour de ça. Si ces personnes-là qui ont connu comme ça de telles blessures dans leur vie, elles s'approchent de Christ pour que Christ devienne la pierre angulaire dans leur vie, alors c'est plus la blessure qui est le socle de leur vie. C'est Christ qui l'est. Et c'est ce qui peut guérir cette blessure, justement. Vous voyez la différence? Ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes encore pris par une histoire personnelle qui remonte peut-être à 40 et plus d'années, des choses qui vous sont arrivées dans votre enfance, et qui contrôle votre vie encore. Ça veut dire que c'est pas Christ qui est vraiment le socle. Il n'est pas encore le socle. Il n'est pas encore la pierre angulaire. C'est pour ça que Pierre dit, approchez-vous encore. Approchez-vous de lui encore. N'arrêtez pas de vous approcher. Jusqu'à temps qu'il devienne le socle. Ou la pierre angulaire. Et dire, mais comment est-ce qu'il peut devenir la pierre angulaire? Oh ben, Pierre le dit. Il dit, approchez-vous de Christ, donc la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Comment est-ce qu'il devient cette pierre angulaire? À partir du moment où il deviendra précieux pour nous. Précieux. C'est Spurgeon, pas Neil ou Jean. Ils sont là ce matin? Ouais. Un autre Spurgeon, Charles, prédicateur célèbre du 19e siècle à Londres. Il raconte cette histoire dans un de ses livres, une de ses prédications même. Et que j'ai toutes les prédications de Spurgeon dans ma librairie. Elles étaient écrites. Et il raconte que cette histoire, il dit, imaginez que vous êtes atteint d'une grave maladie, une maladie mortelle, qui fait que le médecin vous annonce que vous n'avez plus que 2 mois à vivre, ce qui arrive malheureusement. Un grand nombre de personnes. Vous entendez cette nouvelle et vous êtes forcément choqué, abattu, désespéré peut-être. Enfin, c'est un bouleversement dans votre vie. Vous apprenez cette nouvelle et parallèlement, juste après, il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui dit, écoute, on a trouvé un traitement. Un traitement et il marche à 100%. Le remède, il est là à 100%. Sauf que le remède est très très cher. Si tu veux l'avoir, il va falloir que tu vendes ta maison. Ouh ! Dites, vendre ma maison ? Ben non ! Ma maison, c'est ma maison ! J'ai tout investi là-dedans, j'ai travaillé des années, enfin. Et puis vous dites, non, je suis pas prêt à ça, je peux pas faire ça. Et vous allez voir votre famille, vos amis qui vont vous dire, écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre? Si tu as ta maison et que tu meurs dans 2 mois, ça va pas servir à grand-chose ta maison. Mais si tu perds la maison et que tu vis, tu pourras peut-être en reconstruire une autre. Donc la sagesse, bien sûr, vous dit, bah, il faut vendre la maison, un bien qui est précieux, pour pouvoir acheter ce médicament et guérir. Vous voyez que dans ce cas-là, le médicament va devenir plus précieux que la maison qui était déjà précieuse, qui avait une si grande valeur pour vous. C'est de cela dont Spurgeon dit, c'est de cela dont Pierre parle ici, quand il parle de Jésus qui est précieux. Il s'agit qu'il devienne plus précieux que tout ce qui est précieux pour nous. Alors ça peut être la maison, ça peut être la famille, le travail ou quoi d'autre. Parce que c'est lui qui nous donne la vie, en fait. C'est lui qui nous guérit totalement. Ça veut dire que lorsqu'il devient cette pierre angulaire, il devient si précieux que ben, je peux me passer du reste, je peux même me passer de la maison, qui est précieuse pour moi. Comment est-ce que lui, Jésus, est devenu précieux? Là encore, la réponse est dans le texte. Il dit, pierre vivante rejetée par les hommes. Il a été rejeté par les hommes. C'est comme ça qu'il est devenu précieux. Il a été rejeté par son peuple. Il a été rejeté par ses disciples. Il a été rejeté par ses amis. Et plus que tout, il a été rejeté par son père. C'est ce qu'il redoutait le plus. Et pourquoi est-ce qu'il a accepté d'être rejeté? Je pense que vous connaissez la réponse. Il n'y en a qu'une seule. C'est que nous sommes précieux pour lui. C'est la seule réponse. Ça nous montre à quel point nous sommes précieux pour lui. C'est quand nous approchons de Christ de cette manière-là que lui, la pierre vivante, peut devenir la pierre angulaire. Lui qui a été rejeté, parce qu'il a été rejeté, est devenu précieux pour moi. Est-ce qu'il est vraiment cette pierre angulaire dans notre vie? Est-ce qu'il est la pierre principale de notre vie? Il est appelé à la pierre angulaire de l'église, de l'édifice. On a vu que c'est déjà un immense progrès, hein, par rapport à l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden. Mais ce n'est pas encore le retour total à ce qui se passait à ce moment-là, avant cela. Pour le retour total, et la boucle est bouclée, vous savez, lorsque nous lisons les deux derniers chapitres de la Bible, où nous est racontée la nouvelle création, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et là, sur cette nouvelle terre, vous savez quoi? Il y aura à nouveau un jardin. Mais il n'y aura pas qu'un jardin, il y aura une ville, la nouvelle Jérusalem. Parce qu'il y aura du monde. Dans le premier jardin, il n'y avait pas grand monde. Non, il ne pouvait pas y avoir de ville. Mais dans le deuxième jardin, il y aura du monde. Vous serez là, moi je serai là. C'est déjà pas mal, hein? Ça fait une petite ville, un petit village. Mais c'est pas mal déjà. Mais il y aura beaucoup de monde. Donc il y aura la nouvelle Jérusalem. Mais la particularité dans cette nouvelle Jérusalem, c'est qu'il n'y aura pas de temple. Il n'y aura pas de temple. Parce que toute la terre sera son temple. Toute la terre sera son temple. Et il sera la pierre principale, non seulement d'un temple, comme il a été pendant l'Église, le temps de l'Église, il est la pierre principale. Mais il sera la pierre principale de cette nouvelle terre, en fait. Et là, on peut dire que la boucle sera vraiment bouclée. Alors nous sommes dans cette belle période qui avait été tellement attendue, tellement souhaitée, désirée par des hommes comme Moïse. Nous pouvons être réunis ce matin, comme nous le sommes, nous des pierres vivantes, et lui est présent au milieu de nous. Il dira, je suis là, au milieu d'eux, là où deux ou trois sont réunis. Il n'en faut pas beaucoup. C'est rassurant pour l'Église. Hein. Heureusement qu'il ne faut pas être plusieurs milliers, parce qu'il y a bien des églises qui ne pourraient pas, nous les promis. Mais deux ou trois. Alors nous, on a un peu plus que deux ou trois, mais deux ou trois, ça suffit en fait. Je suis là au milieu d'eux. Alors nous allons ensemble nous approcher. Demandez à Noël, aux musiciens de s'approcher. On va, au travers d'un chant, d'un cantique, nous approcher de Christ comme Pierre nous invite à le faire. C'est quelque chose que nous faisons tout le temps, nous avons déjà fait ce matin. Mais faisons-le ce matin de manière particulière. Au travers de ce que nous avons lu dans ce texte de Pierre, lorsqu'il parle de Christ qui est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse. C'est cette pierre-là. Et dont nous nous approchons et nous voulons qu'elle devienne la pierre principale de notre vie. Peut-être elle ne l'est pas encore pour tous ici ce matin. Peut-être pour certains qui ne sont jamais approchés de lui jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être la première fois que vous allez le faire. Et peut-être pour d'autres qui pensent qu'ils se sont approchés de lui un bon nombre de fois, mais sans jamais que cette pierre vivante devienne la pierre angulaire. Nous allons nous rappeler au travers du repas de Sainte-Seine à quel prix il est devenu précieux pour chacun d'entre nous en acceptant d'être rejeté, afin qu'il devienne précieux pour nous, plus que tout le reste, plus que tout ce que nous avons dans notre vie qui peut avoir son importance. Je vous invite à vous lever pour ceux qui peuvent maintenant, on va ensemble nous approcher de lui. Alléluia.